BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle, toujours avec Éric Le Bourlou, que vous pouvez lire entre autres dans Les Numériques, et bien sûr Anthony Morel, journaliste à BFM Business. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle, avec une mauvaise nouvelle pour Boston Dynamics, qui a été tout de suite corrigée par une bonne nouvelle, puisque la première info, en fait, alors Boston Dynamics, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est ces robots incroyables, ces chiens Spot-là, qui nous ont totalement bluffés il y a quelques années, enfin, quand on avait vu... Moi je pense que ça a été mon premier choc technologique quand j'ai vu ces robots-là.
Ouais, en fait. Sur les robots, ouais,
ces chiens, je trouvais qu'ils avaient, c'était troublant d'ailleurs, hein, un mimétisme d'un vrai animal qui était incroyable. Ouais, incroyable. Le gars qui donnait des coups de pied dedans.
C'est cette vidéo-là, moi. C'est celle-là.
Le chien qui se rattrape comme ça, qui arrive à descendre, qui arrive à parcourir des sentiers avec des pierres et tout. C'était quand même assez impressionnant.
La vidéo du coup de pied, elle est folle parce que, en fait, c'est le premier moment où je me suis pris à avoir de l'empathie pour un robot. Et là, tu te dis, waouh, il y a un truc qui est vraiment très, très bizarre. C'est-à-dire que tu vois un ingénieur qui file un coup de pied à Spot, il réagit comme un vrai chien, et tu te dis, oh là, mais il est méchant ce gars de taper le chien, pourquoi il fait ça? Alors que, évidemment, c'est une boîte de conserve. Et là, tu te dis, waouh, ah ouais, il y a un biais cognitif énorme qui est en train de se mettre en place parce que ces robots. Alors qu'il a même pas. Enfin, il a une allure de chien, mais c'est un robot.
Moi, ce qui m'avait impressionné, c'était évidemment le coup de pied qu'il lui donne, mais surtout la manière dont il réagit, c'est-à-dire qu'il lui donne un coup de pied et on sent qu'il est déstabilisé et comme un être vivant, en fait, il se repositionne de manière totalement fluide et naturelle. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même assez impressionnant, cette boîte est à suivre, et puis après on l'a vu, et donc Atlas est arrivé.
Alors Atlas est encore plus spectaculaire, si c'est possible, que Spot, puisque c'est le robot humanoïde. Donc il y a encore plus de projections, j'imagine, de Boston Dynamics. Et la vidéo qui avait beaucoup fait parler, il y en a eu beaucoup d'autres, mais c'est celle où il fait un salto arrière notamment. Tu vois quand même, un robot, c'est là qu'on voit l'évolution quand même de la robotique en l'espace de 10 ans. C'est incroyable, ça, ce robot humanoïde, il fait un salto arrière, il fait un parcours du combattant, t'as l'impression que c'est un ninja, le machin. C'est complètement dingue. C'est les vidéos les plus spectaculaires robotiques qu'on ait vues, je pense.
Vidéo, vous le voyez, c'est impressionnant. Là encore, il a un naturel dans sa manière de se mouvoir, en fait, c'est impressionnant.
Ouais, alors là, tu vas le voir qu'il se prend une énorme gamelle, si je me souviens bien de la vidéo, parce qu'ils ont aussi publié. C'est pareil, t'as mal.
Heureusement qu'il n'a pas de coucougnette.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, il tombe d'une poutre, et le geste, t'as l'impression qu'il se met la main à l'entrejambe comme s'il avait mal. C'est ça qui est complètement incroyable. Non, mais c'est fou, quoi. Alors c'est rigolo parce que, donc tu le disais, ils ont publié deux vidéos. Alors là, t'as la vidéo où effectivement, t'as un ingénieur qui se bat contre l'humanoïde, et tu te dis, le jour où les robots reprendront le contrôle, ce mec-là, j'aimerais pas être sa place, parce qu'ils s'en souviendront.
Ils s'en souviendront, ils ne vont pas oublier.
Ils ont publié deux vidéos. La première, pour la retraite d'Atlas, donc de l'ancienne version d'Atlas, où ils montrent un peu l'évolution du robot à travers les âges, sur 11 ans, et on voit effectivement qu'on part d'une grosse boîte de conserve qui marche de manière un peu gauche pour arriver à un robot incroyablement sophistiqué qui est capable de faire des galipèdes, des saltos, des parcours du combattant quand il ne se vautre pas méchamment. Et c'est vrai que Boston Dynamics, de ce point de vue-là, a pas mal d'autodérision. Il montre aussi toutes les faillites quand le robot se plante. Et c'est de bonne guerre, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Donc ils ne nous font pas croire que tout est parfait, que tout fonctionne parfaitement.
Et puis ça rajoute de l'empathie, en fait. Aussi. Mais c'est ça, on se dit, parce que les bêtisiers, c'était les humains. Là, on a un bêtisier de robot.
C'est ça.
Et tout de suite, ça nous fait rigoler. Ça change la posture. En fait.
Donc ça, c'était la première vidéo, et donc c'était bye bye Atlas. Donc
là, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe depuis que Hyundai a racheté Boston Dynamics? Que se passe-t-il? Peut-être qu'ils vont arrêter la robotique, qu'ils vont peut-être se repositionner sur les robots pour construire des voitures ou je sais pas quoi.
Peut-être qu'ils leur coûtent trop cher, parce que c'est vrai que c'est marrant de voir des robots qui font des galipettes, mais enfin, ça leur rapporte pas beaucoup d'argent, ils les vendent pas.
Ça
sert pas à grand-chose dans l'absolu. Et quelques heures plus tard, ils sont malins en termes de com, évidemment, ils publient une deuxième vidéo avec la nouvelle version d'Atlas. Alors que je vais décrire pour ceux qui nous écoutent, on voit un robot allongé au sol et qui se lève, mais comment dire, en se contorsionnant. Je pense que même un gymnaste professionnel ne fait pas ça, très clairement. Et donc, moi, je me lève comme ça le matin aussi. Pareil, même chose. Alors, le design a changé. Alors, pour ceux qui se souviennent.
T'as vu, il a une petite antenne Wi-Fi trop mignonne.
Mais oui.
Trouve.
Alors, c'est le mot, tu
en
as raison.
En haut de la tête.
Trop mignon. C'est-à-dire qu'en gros, on est passé d'un robot, et je pense que c'est un choix de design évidemment délibéré, On est passé de Terminator à Pixar, en gros. C'était un robot qui faisait peur, et peut-être un peu trop peur. Maintenant, c'est un robot qui est beaucoup plus mignon. Je dis Pixar parce qu'il a une tête en forme de lampe, ça fait penser un peu au logo Pixar. Il est plus léger, beaucoup plus épuré aussi dans son design. Enfin, il est beaucoup moins menaçant, en fait, par rapport à la première version.
Ouais, et puis il y a aussi un truc, c'est que c'est un robot au moteur, on va dire, électrique et non hydraulique, qui était. Donc, vous n'avez pas ces énormes câbles qui parcouraient tout le premier Atlas. Là, c'est beaucoup plus, forcément, il est beaucoup plus fin.
Mais je trouve qu'il est beaucoup plus mécanique dans sa démarche. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que j'ai un peu observé, je trouvais qu'avec l'hydraulique, alors c'est peut-être dû à cette technologie, on arrive à reproduire en fait des gestes qui ressemblent à un être vivant. Alors que l'électrique, c'est beaucoup plus mécanique en fait. C'est le début, c'est le premier.
Ouais, c'est ça.
Ils vont peut-être corriger ça.
Parce que ce qu'ils expliquent quand même, c'est que celui-ci, par rapport à la version précédente, il a plus de degrés de liberté de mouvement. Donc normalement, il devrait être... à terme, en tout cas, plus souple et plus fluide, on verra.
Bah, c'est d'ailleurs ce qu'il montre quand on le voit se lever. Hein, c'est un mouvement qui est impossible pour un humain, évidemment. Et c'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'ils ont fait évoluer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'Atlas était vraiment singeait au maximum l'être humain. Or, on sait que c'est pas forcément un robot humanoïde bipède. C'est pas forcément ce qui est plus pratique en tant que robot. Donc là, en faisant ça, en montrant que en fait, finalement, il y a des degrés de liberté qui sont largement supérieur à celle d'un humain. Il peut faire des mouvements qu'un humain ne peut pas faire. Il montre aussi que c'est un robot qui va être peut-être beaucoup plus polyvalent que l'était Atlas.
Et peut-être au moins une usine à gaz, parce que je ne sais pas si vous avez vu sur le problème de l'hydraulique, c'est que dès qu'il pète, il y a du jus, du liquide qui sort partout.
C'est
impressionnant.
Ça vole dans tous les sens.
Sur le bêtisier, je veux dire, dans le salon, ça fait tâche, c'est le cas de le dire, excusez-moi.
Le gros majordome, là, il t'apporte
un majordome, il tombe.
Il en fout partout.
Il fait tard, il se casse le tibia.
Les invités sont arrosés, quoi. C'est bien.
T'as du liquide, de l'huile partout. T'es content.
T'as gagné ta soirée.
C'est super.
T'as raison.
Donc là, électrique,
il n'y a plus de problème de ce genre.
Beaucoup plus pratique. Et je pense que c'est intéressant aussi parce que... Enfin, je pense que le timing est vraiment bien choisi et pas du hasard du tout parce qu'il y a une montée en puissance de la concurrence aussi dans la robotique humanoïde. Hein. On a parlé de Tesla avec son robot Optimus. Il y a Figure aussi, qui est une boîte qui est en train de monter en puissance avec ces robots qui sont capables d'imiter les êtres humains. C'est incroyable. Figure, c'est vraiment
avec
un truc de fou.
Avec ChatGPT à l'intérieur. Exactement. On a un vrai dialogue avec ce truc-là. C'est incroyable.
En fait, c'est ça. Je pense qu'on va sortir de la version pure démo, robot qui fait des saltos pour arriver vers quelque chose de peut-être plus fonctionnel. Hyundai maintenant est aux commandes et ils veulent, je pense, aussi un modèle économique, un robot qui puisse se vendre chez des industriels, dans des usines, etc. Et un robot qui, comme c'est un peu la tendance avec Figure ou avec Tesla, soit des robots, ce qu'on appelle des humanoïdes à usage général, c'est-à-dire plus seulement capable de faire ce qu'on les programme à faire, mais capable d'imiter, de regarder l'être humain, d'analyser leur contexte et en fonction de tout ça, de prendre des décisions. Et c'est ça, en fait, la sophistication ultime pour les robots. Et je pense que Boston Dynamics va aller vers ça avec cette version. On a hâte de voir ce qu'il est capable de faire, en tout cas.
Oui, c'est clair. Mais imaginez la puissance de ChatGPT associé à ce type de robot électrique, c'est incroyable.
Mais t'as vu le robot de Figure est-ce que vous l'avez vu, le Figure 01, il s'appelle, parle. Donc c'est, ils lui ont intégré ChatGPT, donc c'est un humanoïde un petit peu comme ça.
Et puis surtout, il y a un gars en face de lui qui lui dit trie les poubelles. Ouais. Il a tout un truc devant. Vous avez pas vu
cette vidéo, mais
elle est incroyable.
C'est incroyable. Il a une table. Le robot est devant une table avec des boules de papier et une poubelle. Et le gars qui est en face, qui est un humain, qui lui dit qu'est-ce que tu analyses sur cette table? Et le robot regarde, il dit il y a des boulettes de papier, il y a une poubelle, je vais ranger sans qu'il dise quoi que ce soit. Il prend les boulettes de papier et il les met dans la poubelle.
Et avec une voix hyper douce quand il lui répond, tu sais, moi c'est ça qui me frappe aussi.
C'est dingue. C'est incroyable. Il y a un autre exemple dont je me souviens plus. Il y a un autre truc dans cette vidéo qui est impressionnant.
Il y a un humain avec un égouttoir, une pomme.
Ah oui, c'est ça.
Et en fait,
il range une assiette sur un égouttoir.
Ouais, c'est ça. Décris-moi, qu'est-ce qu'il y a en face de toi? Là, il y a toi, un être humain. Il y a une pomme rouge. Là, je vois un égouttoir avec de la vaisselle. Et donc, il commence à ranger et tout.
C'est le grand fantasme de la robotique, d'avoir un assistant robot à la maison, un majordome. Et d'ailleurs, c'était aussi des vidéos qu'avait à un moment montré Boston Dynamics avec Spot. Je me rappelle qu'ils avaient fait cette vidéo vidéo où on voyait Spot ranger, prendre une bière, la mettre à la poubelle, etc. Mais effectivement, sans forcément la partie IA, ouais. Puisqu'on rappelle.
Là, c'était plutôt scripté, quoi.
Exactement. Boston Dynamics est connu pour très bien scripter ses vidéos, évidemment. Mais là, avec l'émergence de ce genre de techno comme ChatGPT, ça peut tout changer, ouais.
Tiens, alors, tout à l'heure dans la première partie, on parlait d'échecs. Est-ce que AirChat, qui est, on va dire, cette nouvelle appli réseaux sociaux qui enflamme la Silicon Valley, va avoir le même destin funeste que AIPIN?
Je sais pas. Clubhouse. Vous vous souvenez de Clubhouse?
Ah, Clubhouse.
Alors, c'est quoi AirChat? Parce que tu voulais nous en parler.
Oui, AirChat, c'est un petit peu l'application sociale qui est en train de monter dans les cercles un peu geek, early adopters de la Silicon Valley, qui consiste en fait, ils appellent ça un social talkie-walkie ou... C'est un peu comme Twitter mélangé avec du Clubhouse, pardon. Simplement, plutôt que d'écrire votre message à la main comme sur Twitter avec votre clavier, vous allez le dicter à la voix, et donc il va être retranscrit par l'application en texte, mais tous les utilisateurs vont aussi pouvoir vous écouter et donc soit lire le message bien sûr, mais aussi écouter votre voix en train de le dire. Donc, c'est ça la promesse du truc. Ça n'a rien d'exceptionnellement fou hein, quand on y pense. Bon, c'est juste une autre manière de partager, c'est-à-dire plutôt à la voix et par mini message, comme des micro podcasts un petit peu, comme si vous envoyez quelques secondes de votre audio à vous.
Quand tu vois l'explosion des messages vocaux sur WhatsApp notamment.
Exactement.
Alors on aime ou on n'aime pas. Ouais. Hein, là,
moi je pense que je déteste les vocaux. Alors je vous dis, m'envoyez pas de vocaux, hein, vraiment. Ou alors si, mais 5 secondes.
Oui, mais tu as des vocaux maintenant qui peuvent être transcrits en texte.
Oui, c'est ça. Non, mais ça c'est
intéressant.
Ça c'est justement. Pratique.
Ah non, mais putain, c'est une perte
Snapchat
de temps.
Snapchat fait ça notamment. Ouais. Quand tu fais un vocal sur Snapchat, t'as la version écrite qui apparaît derrière. Mais en fait, les vocaux, je suis d'accord, moi je suis pas fan, mais en revanche, parfois quand tu dois expliquer un truc compliqué à l'écrit, c'est plus facile de le dire en fait.
Oui.
Et c'est vrai
que ce soit court. C'est juste ça.
Non, mais bien sûr, si tu fais un vocal de 2 minutes, c'est pas possible.
Ouais, sinon, c'est le retour du message sur le répondeur, quoi, qui a disparu ou quasiment disparu. Dieu merci. Les vocaux, c'est pas possible.
Mais en fait, effectivement, ce que propose AirChat, cette fonction de je transcris et je laisse la possibilité d'écouter le vocal. Ça peut être un bon truc pour les vocaux, parce que je suis d'accord, je suis pas non plus très très fan de ces messages vocaux sur WhatsApp.
Parce que je crois que l'argument qu'ils mettent en avant aussi, alors pour le coup ça je peux l'entendre, c'est que le fait que les réseaux sociaux soient écrits principalement, ça génère aussi des erreurs de communication, des erreurs d'interprétation, tu sais, tu sais jamais vraiment le ton que prend la personne, alors tu as les emojis qui peuvent... Mais en tout cas, le fait de pouvoir avoir la version vocale, c'est vrai que t'as, en termes de communication, c'est aussi un plus. Donc
exactement.
Si tu as un doute...
Et puis, ce qui est intéressant aussi, et c'est le retour de certains utilisateurs de cette appli, c'est qu'ils disent il y a des gens que je connais très bien par le biais des réseaux sociaux, mais j'avais jamais entendu leur voix. Je ne savais pas quelle était leur voix. Et c'est vrai que c'est marrant parfois quand on entend la première fois, la voix de quelqu'un qu'on a suivi que par écrit. Et ça donne effectivement, pourquoi pas, on peut mettre plus d'ironie dans la voix, on entend mieux certaines intonations qui vont être différentes, qui ne passent pas forcément en texte. Voilà, donc après, AirChat est en train de monter, hein. ça monte au classement des applis sociales les plus téléchargées,
c'est
notamment sur l'App Store.
C'est
dispo en France, mais attention, évidemment, ce n'est accessible que sur cooptation.
Ouais. Un peu comme Clubhouse à l'époque.
C'est pour ça aussi qu'il y a une espèce de buzz qui se fait autour de l'application, puisque les invitations arrivent
au
compte-gouttes, par invitation Twitter, s'il y a un contact Twitter qui est déjà sur l'application, etc. Enfin, on connaît très bien ça. Ouais. C'était le cas de Clubhouse et tout le monde avait envie d'en être, parce qu'évidemment, on voyait que c'était un truc qui montait chez les happy Few, et on va voir si cette application-là peut dépasser ce stade, parce que c'est bien beau de faire le buzz autour de fonctions qui sont pas si folle que ça, on va pas se mentir. Il y a pas d'innovation.
Oui, c'est une fonction.
Incroyable.
En fait, Twitter demain pourrait intégrer cette fonction.
C'est tout le problème. C'est ce qui va se passer. Enfin, franchement, c'est tout le problème de ces. Alors moi, je leur souhaite tout le bonheur possible. Et vraiment, là, j'y crois pas une seconde. Voilà, je vous le dis. Mais c'est le problème, la barrière à l'entrée est tellement énorme, parce que tu as des acteurs qui ont des centaines de millions d'utilisateurs, que effectivement, c'est ce qui se passe à chaque fois. Si une fonctionnalité qui fonctionne, et ben en fait, Meta ou Twitter va juste l'intégrer intégrer, exactement. La pomper, refaire exactement la même chose et dire, ah bah regardez, c'est formidable. Et nous, on a 1 milliard d'utilisateurs qui peuvent l'utiliser. Donc, c'est, voilà, c'est malheureusement. Ou alors, il faut être au bon moment pour accepter le chèque. Parce que Clubhouse, je crois qu'on leur avait proposé aussi de les racheter.
Et puis, oui, ils avaient
dit non, mais ils auraient dû dire oui. C'est dommage.
Et ouais.
Tiens, j'ai lu que l'un des investisseurs de l'AIPIN avait investi dans AirChat.
Ah merde.
Non, c'est pas vrai. Et dans le mec, il a du nez, hein, quand
vraiment, il est sur tous les bons coups.
Ah, il est vraiment sur tous les bons coups, quoi. Vraiment. Bon, les amis, on arrive au bout. Merci, c'était top.
Ouais.
Franchement, on a passé un bon moment.
C'était sympa.
On rigole bien.
Voilà, c'est clair. Et puis... voilà, il faut prendre un petit peu de recul. Ce n'est que de la tech. Alors, c'est de la tech, mais ce n'est que de la tech. Hein.
Oui.
Je vous rappelle que si vous êtes avec nous, par exemple, en audio, eh bien, vous allez avoir un petit module bonus dans quelques instants, avec toujours Éric Le Bourlou, avec Anthony Morel. Un petit module bonus qui est exclusif, donc, sur le podcast audio. Et puis, si vous êtes en train de nous regarder ou nous écouter sur BFM Business ou sur YouTube, merci de nous avoir suivis. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine, vous le savez, de quoi je me mêle. Votre rendez-vous tech du week-end. Salut à tous et à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.